C'est quand même... sans plus tarder qu'on va aller rejoindre Éric Lantier au bout du fil parce que en fait, il a préparé des sujets puis ils ont l'air mauditement intéressants puis j'ai envie qu'on puisse avoir le temps de découvrir. Salut Éric, comment vas-tu?
Ben, ça va très bien. Content d'être avec vous ce soir.
Ben oui, absolument. Plaisir partagé pour nous aussi. Allons d'emblée parce que je sais qu'on est capable de mettre de la viande autour de l'os. On est deux pas pires verbomoteurs. Donc, allons-y d'emblée avec les jeunes péquistes qui veulent couper les subventions aux écoles privées.
Ben oui, écoute... Pour moi, c'est un non-sens de vouloir couper les subventions aux écoles privées dans un premier temps parce que les écoles privées sont subventionnées à 60 %. Imagine, là, c'est sûr que ça arrivera pas comme ça du jour au lendemain, mais si on dit on coupe les subventions, les seules écoles qui vont demeurer, c'est où est-ce que les parents sont ultra riches. Les autres écoles, là, où est-ce que des gens, des parents de la classe moyenne qui se serrent la ceinture pour envoyer à leur enfant parce qu'il y a un projet éducatif extraordinaire, ben les autres, ils vont s'en aller dans le public. Mais là, ça veut dire qu'au lieu d'être subventionné à 60 %, ces enfants-là vont être subventionnés à 100 %. Ça va nous coûter plus cher. Mm-hmm. Alors, et l'autre chose, c'est que ça enlève une saine compétitivité. Tant que l'école privée, là, l'école publique est obligée de performer puis de mettre sur pied des programmes pour justement, pour que les élèves doués ou des élèves qui ont, par exemple, du potentiel, soit en musique, soit dans le sport, soit dans les arts, ça peut être la danse, etc. Mais là, ça pousse l'école publique à mettre sur pied des projets éducatifs qui sont attirants et qui donnent le goût aux jeunes de s'impliquer.
Puis
on pas de compétition.
On parle parfois du fameux nivellement par le bas. C'est un peu ça, dans le fond, parce que là, on va prendre des élèves performants puis les tasser d'un milieu où la compétition est extrêmement élevée pour les ramener au public puis en fin de compte, ils s'emmerdent.
Ben c'est ça le problème, c'est qu'on a un système scolaire où est-ce que tout le monde est dans la même classe, alors qu'on devrait avoir des écoles qui se spécialisent, par exemple, dans les problèmes d'apprentissage. Donc, puis pas tous les élèves dans la même classe qui ont des problèmes d'apprentissage différents. Tu mets pas, par exemple, un dyslexique avec un autiste dans la même classe. Alors, les écoles devraient se spécialiser en fonction de leur clientèle, puis développer, par exemple, des programmes pour les élèves réguliers, des programmes pour des élèves forts, puis des programmes pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, pour que les enseignants se spécialisent. En médecine, c'est la même chose. Je veux dire, un chirurgien, là, ben, écoute, le chirurgien, on l'utilisera pas pour faire de la psychiatrie, ou on n'utilisera pas, par exemple, un omnipraticien pour faire des opérations qu'un chirurgien va faire. Alors, c'est pour ça qu'en éducation, pourquoi on met tout le monde dans le même paquet? Et qu'est-ce que ça produit? Décrochage des jeunes garçons. Ça produit un taux de décrochage qui est énorme. Alors moi, je trouve que c'est se tirer dans le pied de vouloir couper les subventions aux écoles privées.
Ah oui, bien absolument, mais tu sais, on voit le discours facile qui est celui de « Ouais, mais là, si t'as les moyens d'envoyer ton enfant en privé, là, tu connais la chanson un peu comme moi, mais j'abonde dans ton sens, là, je vois aussi, je considère que c'est un non-sens. » Puis c'est de la saine compétition entre élèves habituellement qui sont quand même dotés de capacités intéressantes. Habituellement, quand tu t'en vas au privé, tu t'en vas pas là pour te virer pouce.
Mais non, c'est ça. Puis les écoles à projet international, là, ils sont pas arrivés par hasard. C'est justement, on a vu une multiplication des écoles à projet international ou à l'intérieur d'une école, au moins, d'avoir ce projet-là qui se développait. Pourquoi? Pour empêcher les jeunes du public à aller vers le privé. Ben, moi, je trouve que c'est génial. Ça a donné une poussée puis ça a revalorisé l'école publique. Mais c'est ce genre d'initiative-là que l'école privée provoque. Mm-hmm. C'est le fun.
Non, effectivement, d'avoir de la compétition dans ce milieu-là, je pense que c'est optimal pour tous et chacun. Et puis au final, ben, tu l'as dit, c'est les gens du public qui y retirent des fruits de voir les programmes s'améliorer.
Oui, c'est ça. Parce que là, ce qui arrive là, au public, à cause des centrales syndicales, puis on veut protéger le statu quo. Mais là, on a une structure puis une façon de faire qui date du 20e siècle, puis on est au 21e siècle. Alors, on n'aura pas le choix, à un moment donné, de changer le système d'éducation, ne serait-ce qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Même dans certains cas, il pourrait y avoir des profs qui sont absents dans la classe, puis avoir tout simplement des surveillants ou des accompagnateurs qui sont là pour surveiller les jeunes, puis avoir des cours qui sont à distance. Puis on pourrait utiliser ça de plus en plus, sauver des déplacements, des frais de déplacement, Mais non, on veut rester dans la vieille tradition et ça, je trouve ça déplorable.
Effectivement, on voit énormément de milieux qui sont constamment up-to-date. Puis c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, tu l'as mentionné, quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage, oui, a besoin d'assistance particulière, mais règle générale, tu sais, de si les cours étaient enregistrés à l'avance ou un truc du genre, chacun pourrait y aller un peu à son rythme et ainsi les élèves qui performent seraient pas désavantagés de par le rythme plus lent que certains leur imposent.
Exactement. Puis les enseignants puis les intervenants seraient spécialisés pour des types de problèmes. Alors que quand t'es un prof régulier, je sais, moi, mon diplôme, il est tout régulier. Quand il y avait un élève qui était dyslexique, ben, moi, je savais pas quoi faire avec ça. Vous essayez du mieux que je pouvais. Mais malheureusement, au bout de la ligne, c'est qui a écopé? C'est pas moi. J'ai reçu ma paie à la fin de la semaine. Mais c'est l'élève qui a écopé. Et ça, c'est on peut pas se permettre ça. Spécialement en 2020, avec toutes les stratégies qu'on a qui ont été mises au point, avec les chercheurs universitaires qui trouvent des moyens à la fine pointe de la technologie puis de la science, ben on n'en profite pas parce qu'on n'a pas de spécialistes qui sont formés pour ça.
Non, effectivement, il y a quand même quelques affaires à gratter dans le système d'éducation. Malheureusement, je pense pas qu'on règle de problème aujourd'hui.
Ah, ben non.
tu voulais aussi me parler du rapport homme-femme. T'as pu, ça a-tu en lien avec la journée de la femme d'hier, ça, mon cher Éric?
Ben oui, moi j'ai été recruté pour publier des articles sur la nouvelle plateforme qui s'appelle Québec Nouvelle avec un S.info.
Okay.
Et ça, c'est une plateforme qui fait en sorte qu'il n'y a pas une ligne éditoriale imposée. On croit pas à la pensée unique dans ce journal-là. Et c'est pour ça que j'ai accepté de collaborer parce que moi, j'aime exprimer mes opinions, mes idées, mes convictions, puis me mettre en boîte, ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Et grâce à cette plateforme-là, ben, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais écrire en fin de semaine? Ben, à cause de la journée, justement, internationale de la femme, j'ai dit, bon, on parle de on milite contre, justement, les agressions sexuelles avec toute la question du MeToo. Je voyais que l'ONU avait publié un rapport comme quoi qu'à travers le monde entier, 90% la perception des femmes était négative autant de la part des hommes que des femmes. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça prendrait pour que on puisse changer nos mœurs? Ben, je crois qu'on devrait associer le concept, écoutez bien ça, là, le concept de galanterie à de la virilité.
OK, je vois un peu où tu veux t'en aller. Dans le fond, t'es un homme fier, t'es un vrai mâle si t'es capable de prendre soin de ta femme et de la traiter de la bonne façon.
Exactement, parce qu'à l'époque, au 12e siècle, là, la galanterie, ça a été mise au point pour que les chevaliers puissent canaliser leur force, canaliser leur énergie. Puis on allait sélectionner les hommes les plus braves, les plus courageux, mais on leur disait, les pulsions que t'as là, on va t'apprendre à les maîtriser.
Mm-hmm.
Et après ça, au 17e siècle, en France, on a utilisé ça pour dire, ben là, on va le populariser pour que les hommes puissent prendre soin des femmes puis bien s'en occuper. Alors, qu'est-ce que les féministes répondent à ça? Ils disent, ben non, là, on met l'homme qui domine sur la femme comme s'il en prend soin comme un bibelot. Ben, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, t'as des pulsions, t'as de l'énergie, tu vas les canaliser pour faire du bien, puis mettre en valeur l'autre personne qui est devant toi. De développer justement une vision d'altruisme. Si on inculquerait ça à nos jeunes dès l'école, en disant, regarde, la personne qui est en avant de toi, elle a de la valeur, puis tu vas la traiter avec de la valeur. Puis ramener les bases de la courtoisie, ramener les bases de l'altruisme. Écoute, je pense que sinon, comment est-ce qu'on change ça, une société qui de plus en plus devient violente envers les femmes?
Ouais.
Ça fait quoi?
Là où je diffère peut-être un peu de ton opinion, tu sais, ça serait pas un peu un retour en arrière? Parce que je me rappelle dans les années 60, justement, t'avais des cours qui s'adressaient aux femmes comment bien traiter son mari. Tu sais, de l'attendre avec un repas déjà de prêt. Tu sais, puis justement, on en rit aujourd'hui en 2020 lorsqu'on voit ce genre de manuel scolaire-là. Ça serait pas un genre de retour en arrière qu'on ferait à l'école si on prenait un garçon de 12 ans, 13 ans par la main puis il dit, voici maintenant comment tu dois te comporter avec une femme?
Ben, écoute, c'est sûr, mais tu sais, dans la vie, là, il y a bien des choses qu'on faisait avant, qu'on a mis de côté, puis aujourd'hui, on se rend compte que c'était une bonne chose de le faire. Tu sais, il y a eu un temps où est-ce que les parents n'avaient pas le droit là, de de s'imposer comme parents puis de dire à leur enfant quoi faire. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte, ben, ça n'a pas été bon, puis ça a produit des enfants rois. Puis aujourd'hui, on se dit, OK, ça prend un encadrement. Il y a toujours un retour du balancier. Maintenant, c'est pour ça que moi, je dis, on doit l'associer non pas à un romantisme du temps passé, mais au contraire, à l'associer à la virilité, à montrer que ça demande de la force, ça demande du dépassement, ça demande du courage et de faire en sorte que, justement, on développe au travers de ça les bonnes manières. Parce que, de toute façon, là, peu importe, moi, je le sais, je vais au gym, là. Quand les poids là, sont placés tout croche, quand les portes des vestiaires sont toutes ouvertes, c'est pas agréable, ça fait que c'est pas une bonne atmosphère. Mais quand il y a une atmosphère de courtoisie, et que c'est le fun d'être là au gym, c'est agréable, ça crée une saine atmosphère. Et je pense que c'est ça qu'il faut viser plus que de dire on revient en arrière.
Ouais, mais là où c'est ça, puis je suis d'accord avec toi, je pense que je suis un gars de la vieille école côté valeur, puis tu sais, mais moi, tu sais, c'est mon père qui m'a pris par la main à un moment donné, tu sais, je m'interroge, c'est peut-être plus la job des parents, puis là, je pointe le père, tu sais, des fois, qui est absent un peu dans l'éducation des enfants, ben tu sais, moi, c'est mon père à un moment donné qui me dit, écoute, une femme, tu traites ça de cette façon-là, puis que je te voyais pas, justement, te comporter de manière déplacée, parce que je vais te remettre à ta place assez vite, ça fait que tu sais, moi, c'est plus au niveau du rôle parental que je verrais ça.
Oui, ça c'est pour ça que moi je crois que mais tu touches un bon point parce que si les parents le font pas, là à ce moment-là on se dit bon ben l'école va compenser. Ouais. C'est intéressant là. Puis moi j'ai cette même vision là pour l'éducation sexuelle. Pourquoi justement l'école enseignerait pas les parents à former les jeunes dans cette direction-là? Puis les parents ils en prennent puis ils en laissent en fonction de la réalité du jeune. Mais que maintenant on mette les services d'éducation pas juste aux enfants, mais pour aider les parents à mieux éduquer leurs enfants.
Ben, c'est un travail qui se fait conjointement, puis là-dessus, tu as tout à fait raison. On a tout intérêt, je pense, à ouvrir les portes des écoles, que ce soit par rencontre parentale de groupe ou peu importe. Mais voici un des enjeux qu'on remarque présentement sur lesquels on devrait mettre un peu plus d'accent.
Puis maintenant, avec la technologie, là, tu peux avoir des webinaires, tu peux avoir des séances de clavardage le jour, le soir. Il pourrait y avoir justement des séances qui sont données, puis on serait bien plus productif parce que les parents collaboreraient avec les enseignants qui, eux, ont les connaissances, les compétences, les transfèrent aux parents. Ça serait un travail d'équipe extraordinaire.
Absolument, puis en même temps, on serait conséquent, puis les deux tiendraient le même discours autant à la maison qu'à l'école. Hey, je veux absolument qu'on parle de ton troisième sujet, parce que lui aussi m'intéresse. On parlait d'éducation sexuelle. Interdire l'accès au site 3X aux mineurs. Bon, pour commencer, comment on fait ça?
Ben, je me suis posé la question, parce que tout ça, c'est venu d'un article que j'ai lu sur une manifestation qui a eu lieu à Montréal contre le site Pornhub, qui malheureusement diffuse des images de femmes qui sont pas consentantes parce que souvent c'est de la revanche qu'on fait. Puis je me suis dit, attends une minute là. Il y a une part l'exploitation des mineurs qu'il y a sur la toile, mais il y a aussi l'utilisation puis le visionnement des sites pornographiques par des jeunes qui se nourrissent dans un bas d'âge. Même j'ai fait le test à un moment donné. Je me suis inventé un faux nom. Je me suis inscrit sur YouTube comme si j'avais 13 ans. Je pense que j'ai écrit Armand Bombardier, 13 ans. J'ai tapé sexe une fois que mon compte était ouvert, puis j'y avais accès. J'avais accès à plein de films. Il y avait plein de films de sexe qui étaient. Bon. Maintenant, je me dis, bon, pour les sites pornographiques, pourquoi on ne demande pas une carte de crédit?
Ouais.
Pour ouvrir un compte. Admettons que ça coûte 5 $ ou même 1 $. Mais ça prend absolument un numéro de carte de crédit avec ton nom, ton autorisation. Puis à ce moment-là, la confirmation du paiement doit se faire par la compagnie Mastercard, Visa ou American Express qui confirme que la personne a 18 ans.
Je vais jouer à l'avocat du diable là-dedans parce qu'effectivement, ça peut faire du sens. Par contre, tu sais, eux, les sites pornographiques ont tout intérêt à avoir un maximum d'affluence de par leurs commanditaires. Donc, eux vont très banalement un peu s'en laver les mains et dire, ben écoute, si ça fait pas ici, ça va faire aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Si tous les pays, par exemple, quand il y a des rencontres du G8 ou du G20, s'associaient et disaient, regarde, écoute, il y a une ligne, on peut pas empêcher des adultes de consommer de la pornographie. c'est, ils sont des adultes, puis c'est le marché, il y a des lois, on peut pas empêcher ça. Mais un mineur, maintenant, comment tu peux entrer sur un site puis il te pose la question, est-ce que tu as 18 ans? Penses-tu qu'un jeune de 16 ans va dire non?
Ben non, c'est banal. Comme. Mais tu sais, il y aurait peut-être justement, je sais pas, là, je brainstorm avec toi en même temps. Tu sais, X documents qui te seraient remis à tes 18 ans. Tu sais, je prends la carte d'assurance sociale.
Ça va, tes 18 ans, tu commences à travailler à 14.
Ouais, non, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, notre numéro d'assurance sociale, on en a tous un. Je comprends que lui est important, mais la seconde que tu dépasses 18, bon, ben, le gouvernement du Québec t'envoie une carte avec un numéro qui te permet d'avoir accès. Puis, tu sais, quand tu t'en vas dans un dépanneur, tu montres cette carte-là, tu sais, exemple, là, pour t'acheter de la boisson.
Puis à ce moment-là, ça voudrait dire que pour entrer sur un site, il faudrait que tu rentres ce numéro.
Tu rentres ce numéro-là. Je comprends qu'il en circulerait, mais c'est sur Internet, mais n'en demeure pas moins que ça démontrerait un certain contrôle.
Les enfants prendraient la carte de ses parents dans leur porte-à-feuille pendant qu'ils sont occupés, puis ils m'en rentraient le numéro.
Ben, si t'es rendu assez machiavélique pour faire ça, c'est que tu mérites quasiment de pouvoir en regarder.
Ah, ouais, c'est ça.
Mais ça demeure quand même extrêmement complexe comme problème, tu sais.
Ben, complexe comme problème. Écoute, les enfants, c'est pas toi, même si tu mets un contrôle parental, écoute, ils vont trouver le moyen d'y aller pareil.
Mais oui, effectivement, mais plus tu le rends compliqué, plus je pense que plus tu mets les chances de ton bord.
Ben, c'est pour ça que la carte de crédit, ça implique une démarche d'une entreprise qui va devoir gérer de son côté un certain contrôle. Alors, mais justement, quand j'ai eu cette discussion-là avec des jeunes, je me dis OK, puis il y en avait un qui est en informatique en plus, parce que je dis comment est-ce que ça se peut se contrôler ça? Il dit c'est complètement presque impossible. Mm-hmm. Puis là, on brainstormait là-dessus. Puis bon, ben ton idée est bonne, je trouve, Chico, tu sais, d'avoir un certain numéro, tout ça. Maintenant, est-ce que ça va finir par se frauder? À un moment donné, tu finis par trouver le numéro, la carte de crédit, mais à part ça, justement. Parce que moi, ce qui me désole, c'est de voir des jeunes de 10, 11, 12 ans, 13 ans qui consomment de la pornographie, puis qui ont une réalité de la sexualité qui est bien différente de ce qu'il va sûrement vivre.
Ah, effectivement.
Avec son épouse.
Plus on le banalise, plus on vient qu'à créer une certaine une habitude de consommation qui fait en sorte que, coudon, il se ramasse au lit la première fois, puis c'est ordinaire. Hein.
Mm-hmm. Exactement. Puis il y a une différence entre un adulte qui a une expérience de vie, puis qui a consommé de la pornographie, qui fait la part des choses, puis un enfant, lui, qui voit ça comme « wow, c'est excitant, puis c'est quelque chose qui arrive dans le lit, puis ça se passe pas comme ça, là. »
Absolument, absolument. Écoute, Éric, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Par contre, on rappelle, c'est Québec Nouvelle. C'est quoi le site Internet pour aller te lire?
Québec Nouvelle avec un S.info. Québec Nouvelle avec un S.info ou ericlantier.net. Toutes mes publications sont sur ericlantier.net.
Toujours un plaisir, Éric. Je te remercie beaucoup. Puis on se reparle lundi dans deux semaines.
C'était bien agréable. Au revoir.
Merci, bye bye. Éric Lantier, qu'on avait au bout du fil, toujours très pertinent, toujours très intéressant. Bref, hey, on est vraiment squeezés. Restez avec nous, les deux snooze qui prennent le micro. Et ce, dans les 5 prochaines minutes. Je vous garantis qu'on va avoir du plaisir ce soir à l'antenne de CGMD. C'était Chico. Normalement, Guillaume de retour demain dans les salles des nouvelles.